Priorité santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous, nous partons aujourd'hui en République démocratique du Congo pour parler de la lutte contre la polio, cette maladie infectieuse qui peut entraîner une paralysie. Après avoir longtemps figuré parmi les pays les plus affectés, la RDC est exempte de polio depuis près de 3 ans, un succès notable sur un territoire où la couverture vaccinale est de seulement 72%. La RDC, soutenue par Gavi, l'Alliance mondiale pour la vaccination, est le 8e pays à recevoir le nouveau vaccin inactivé contre la poliomyélite. Ce vaccin injectable et plus efficace que le vaccin oral jusqu'alors utilisé dans les pays en développement. Grâce à lui, la polio pourrait être, après la variole, la deuxième maladie éradiquée dans le monde. La RDC fait certes des progrès dans le domaine de la vaccination, mais l'accès aux soins reste très difficile. Le pays fait face à des taux de mortalité infantile et maternelle particulièrement élevés. Quelle est la réalité alors de l'accès aux soins dans le plus grand pays d'Afrique subsaharienne, fortement touché par le paludisme et le sida? Comment faire pour se soigner dans un pays où les soins coûtent cher, alors que près des 2/3 de la population vivent en dessous du seuil de pauvreté? Un reportage de Charlie Dupio à Kinshasa et à Bankana.
Je m'appelle Didi Béa.
Et là, qu'est-ce que vous faites alors dans ce centre de santé?
J'ai ma femme là piqué la crise de l'AVC. C'est ça qui nous amène ici. On me demande d'aller faire les scanners, $300. Il faut payer vraiment tout. Hein, même les docteurs, il faut donner de l'argent. Tu vas faire des examens, tu vas payer les médicaments. Jusqu'à aujourd'hui, même 100 000 francs déjà.
C'est l'équivalent de $100 à peu près, 100 euros.
C'est beaucoup, nous ne travaillons pas. Regardez comme nous sommes des jeunes, mais il n'y a pas de travail. Aucun travail je fais. Mes familles, ma mère, mes cadets sont venus pour m'aider, me donner mes forces. T'es donné même 10 000 francs, l'autre qui vient 5 000 francs, après tu vas payer les médicaments. Nous les Congolais, nous souffrons. Et puis nous avons malaria, typhoïde. Il faut l'État congolais améliorer le système de santé. Imagine-toi qu'un monsieur qui ne travaille pas, il est avec 3 enfants, sa femme est devenue à l'AVC, donc il est totalement bloqué. Donc je ne sais pas comment, l'autre ordonnance de demain, je vais faire quoi? En tout cas, ma tête commence à souffrir. Un peuple congolais, s'il a tombé les malades, c'est la mort.
On vient d'entendre un père de famille inquiet pour sa femme qui a eu un AVC, un accident vasculaire cérébral, rencontré dans un centre de santé à Kinshasa. Charlie Dupio, bonjour.
Bonjour.
La RDC est en voie d'être déclarée pays exempte de polio par l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé.
Oui, alors la poliomyélite, c'est une maladie qui touche principalement les enfants de moins de 5 ans. Elle est provoquée par un virus qui envahit le système nerveux et elle se transmet le plus souvent via des eaux contaminées. Dans un cas sur 100, l'infection entraîne une paralysie qui peut parfois conduire à la mort si les muscles respiratoires sont touchés. Alors, il n'existe pas de traitement, d'où l'importance de la vaccination. Et grâce à de nombreuses campagnes de vaccination, on est passé de 350 000 cas en 88 à 414 en 2014. L'objectif de l'OMS aujourd'hui, c'est d'éradiquer cette maladie dans le monde d'ici à 2018. La maladie sévit encore de manière endémique dans 3 pays aujourd'hui, le Pakistan, l'Afghanistan et le Nigeria. Mais le continent africain pourrait bientôt être débarrassé de la maladie, car aucun nouveau cas de polio n'a été signalé depuis plus de 6 mois en Afrique, même au Nigeria. En RDC, les derniers cas remontent à décembre 2011, plus aucun depuis 3 ans, et c'est pourquoi l'OMS devrait officiellement déclarer le pays exempt de polio. J'ai rencontré une femme atteinte de cette maladie. Elle a 54 ans, s'appelle Marie Biela Mabungu et vit dans le quartier de Bandaka à Kinshasa. Elle parle en lingala.
Na botama ndenge bana nyoso ba botamaka na libumu ya mama.
Je suis née normale comme tous les autres enfants. C'est à l'âge de 4 ans que j'ai attrapé cette maladie, la poliomyélite. À 4 ans, je savais déjà marcher, mais après être tombée malade, j'ai commencé à ramper par terre, comme tous les enfants qui souffrent de la polio. Ça a été difficile pour moi qui savais marcher, de me mettre à ramper.
Vous avez en fait une attelle là qui remonte tout au long de la jambe.
Et ça vraiment paralysé.
Ma jambe droite n'est pas complètement paralysée, mais j'ai besoin de cette attelle. Sans elle, je ne pourrais pas marcher. J'ai pu bénéficier de la vaccination, mais trop tard. Quand j'étais vaccinée, la maladie était déjà présente. Donc le vaccin n'a pas pu m'empêcher d'être handicapée.
Nazala qui coquine des classes, Mais Nazaki accompagnait toujours notre petit frère Nangai.
Ensuite, on m'a inscrite à l'école. Et mon petit frère devait m'accompagner. Moi, sa grande sœur, tout le long du trajet à pied pour y aller. Ce n'était pas facile pour lui de me soutenir, aller-retour, chaque jour, sur le chemin de l'école. Mais il le faisait. Parce que je ne pouvais pas marcher seule. Ici, à Kinshasa, quand on a un enfant qui est atteint de cette maladie dans la famille, on peut être accusé de sorcellerie, être la cible d'injures. Je l'ai été dans le quartier où on vivait avec ma famille. Les gens se moquaient de moi. C'était vraiment difficile. Même encore aujourd'hui, quand je prends le bus, certains conducteurs refusent de me laisser monter à cause de mon état, de mon handicap. Je suis impliquée au premier plan dans toutes les campagnes de vaccination organisées au niveau de la zone de santé où j'habite. Je vais voir les familles qui refusent la vaccination. Il y a vraiment des familles qui refusent par peur que les vaccins amènent d'autres maladies. Alors, on prend le temps nécessaire pour les convaincre, pour persuader les mamans de faire vacciner leur bébé. Et je leur dis, si vous refusez de le faire vacciner, il va devenir comme moi. Regardez. Et à la fin, les parents acceptent de faire vacciner leurs enfants.
Et pourquoi pour vous c'est important de prendre part à cette démarche-là ?
C'est vraiment un souci pour moi. Avec tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai subi durant mon enfance, je ne veux plus qu'aucun autre enfant endure ça. C'est pour ça que je m'implique comme relais communautaire, pour que les autres familles ne vivent pas la même chose que ce que j'ai vécu dans mon enfance.
Priorité santé, reportage.
Pour s'assurer de l'éradication de la poliomyélite, la RDC va donc s'appuyer sur un nouveau vaccin, Charlie Dupiot.
Oui, alors il existe deux vaccins en fait pour prévenir la maladie. Le premier est utilisé encore aujourd'hui dans la plupart des pays en développement. C'est un vaccin oral, par goutte, qui nécessite plusieurs doses et qui contient le virus vivant affaibli. Et puis il existe un autre vaccin, par injection, qu'on appelle le vaccin antipolio inactivé. C'est celui qu'on utilise en Europe et dans les pays développés. Il est basé sur le virus mort, il nécessite une seule dose administrée aux nourrissons de 14 semaines. Plus de 2 millions d'enfants congolais vont donc désormais bénéficier chaque année de ce nouveau vaccin. Il sera progressivement distribué dans les 8835 structures de vaccination du pays, comme dans le centre de santé mère-enfant de Barumbu, un centre en grande partie consacré à la vaccination qui se situe à Kinshasa, au nord-ouest de la capitale, tout près du fleuve Congo. J'y suis allée à l'occasion de la journée nationale de la vaccination. C'est donc un moment, vous l'imaginez, où le centre est très fréquenté. Visite avec le docteur Mami Lao, elle est médecin-chef de la zone de santé de Kinshasa.
Si nous sommes au CME, au centre de santé de référence Barumbu. Nous sommes dans le service de vaccination.
Là, on voit des femmes assises sur un banc avec leur bébé dans les bras.
Oui, nous avons chaque femme qui a son bébé. Ils sont venus pour la vaccination, pour que les enfants soient vaccinés. Et là, c'est la séance de sensibilisation. Il y a l'infirmier qui est en train de sensibiliser d'abord le maman pour qu'il comprenne l'importance de la vaccination et quels sont les antigènes disponibles ici en RDC, qui est dans le calendrier vaccinal. Ici, on vaccine contre le BCG, VPO, PCV13.
PCV13, c'est le tétanos.
Tétanos, oui. Nous attendons notre nouveau vaccin qui est la VPI.
Le vaccin inactivé contre la polio.
Après demain, on va commencer à vacciner avec administrer le nouveau vaccin.
Paracétamol, pour ça la fièvre.
Qu'est-ce que l'infirmière explique à ces femmes?
Elle est en train d'expliquer, de dire aux femmes que l'enfant qui va recevoir des injections pourra faire la fièvre. Et à chaque fois, quand on administre les vaccins, on leur remet un quart de paracétamol que la maman va administrer à l'enfant à la maison.
Et comment vous avez réussi à les amener ici?
Il y a des mamans qui ont accouché ici et il y a des mamans qui ont reçu l'information auprès des relais communautaires qui sont dans la communauté, qui donnent l'information par rapport au calendrier vaccinal, porte à porte. Il y a des mamans qui savent, mais il y a aussi des mamans qui ne savent pas quelles sont les pathologies pour lesquelles on vaccine, comme la pneumonie. Il y a des mamans qui connaissent la pneumonie, il y a des mamans qui ne connaissent pas la pneumonie. Mais parmi eux, leurs parents les ont expliqué. Cette pneumonie-là, dans les temps, ça a tué des enfants. Mais aujourd'hui, grâce à la vaccination, on est arrivé à vraiment à diminuer le taux des décès dus aux infections respiratoires, qui est la troisième pathologie qui tue les enfants de moins de 5 ans ici chez nous en RDC.
Quels sont les deux autres?
C'est le paludisme et la diarrhée. Si nous descendons dans la communauté, nous allons trouver des gens qui refusent la vaccination. Si on a 100 cas, peut-être un cas seulement de résistante. Ça existe. C'est pourquoi tu vas voir, ils vont faire 2-3 heures du temps ici, parce qu'il faut d'abord sensibiliser.
2-3 heures, c'est très long.
C'est très long, mais parce qu'ils sont nombreux. Si on ne donne pas la communication, nous allons administrer les vaccins qui vont donner des complications, des douleurs, des fièvres, et demain, on ne verra plus des mamans. Donc, pour qu'elles reviennent, il faut passer par la communication, qui est une étape très importante.
À quelle réticence vous devez faire face? Que vous disent les femmes qui ne veulent pas que leur enfant soit vacciné?
Ceux qui refusent les vaccins, bon, c'est qu'ils disent le vaccin est néfaste. Il avait un enfant qui avait reçu les vaccins, il est rentré à la maison, l'enfant fait la fièvre, l'enfant fait la diarrhée. Et lui, il a attribué cette pathologie-là au vaccin. Et pour lui, le reste de sa famille ne peut pas être vacciné. Il y a des églises, soi-disant des églises, qui refusent qu'on vaccine les enfants parce que les vaccins, ce sont des microbes qu'on est en train de donner aux enfants.
Quelles églises?
Il y a un groupe de sectes qui refusent à ce que leurs enfants soient vaccinés. Nous avons par exemple le Bundia Congo, ils refusent. Il y a les Baba. Il y a aussi les églises primitives des Noirs. Dans leur philosophie, ils disent que nous sommes des Noirs. Tout ce qui vient de l'homme blanc ne peut pas être en faveur de l'homme noir. C'était d'abord ça. Et il y a certains qui refusent même les traitements modernes. Quand ils sont malades, ils préfèrent les traitements traditionnels. Et vous voyez, les vaccins aussi, ça fait partie des traitements modernes.
Et ces églises, elles sont importantes en RDC, ici?
On les trouve plus au niveau de la périphérie.
À la périphérie de Kinshasa?
Oh, bien sûr. Mais c'est plus dans certaines provinces, comme la province du Bas-Congo, la province du Bandundu, où nous trouvons aussi les bastions de ces églises-là. En fait, moi, c'est docteur Faustin Billet. Mais par rapport à ça, il y a déjà un grand travail que nous avons fait. Nous avons fait l'effort d'approcher les chefs de ces sectes. Quand on a persuadé leurs chefs, on leur a montré l'importance de la vaccination et qu'on commence à vacciner, quelques-uns acceptent, mais il y a d'autres qui continuent à refuser.
Bonjour. Alors vous êtes avec votre fille?
Oui.
Quel âge elle a?
Elle a 9 mois. C'est juste la vaccination qu'on donne lorsque l'enfant a 9 mois.
Qu'est-ce que vous pensez de la vaccination?
Ça peut donner la fièvre, mais on donne des médicaments comme l'aspirine. Bon, je sais que la vaccination, c'est très important pour l'enfant. Ça protège l'enfant contre certaines maladies, certaines infections. Bon, c'est vraiment bien pour l'enfant.
Bonne vaccination, alors.
Certains parents, comme cette mère que l'on vient d'entendre, sont convaincus des bienfaits des vaccins, sans forcément d'ailleurs savoir quelles pathologies ils préviennent exactement. Charlie Dupiot, qui finance ces vaccins en République démocratique du Congo?
Alors, les vaccins dits traditionnels sont financés par le gouvernement congolais. C'est le cas du BCG contre la tuberculose et du vaccin oral contre la polio, donc celui qu'on utilisait ici jusqu'à l'introduction du nouveau vaccin par injection. D'autres nouveaux vaccins, comme le pentavalent contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos, le vaccin contre la rougeole ou encore celui contre l'hépatite B, sont achetés, eux, par l'Alliance Gavi, donc l'Alliance mondiale pour la vaccination, avec une participation du gouvernement congolais à hauteur de 5%. Et c'est également Gavi qui va financer donc le nouveau vaccin inactivé contre la polio, un vaccin qui coûte cher, 1 dollar la dose, 7 fois plus qu'une dose de vaccin oral. Bref, le pays a aujourd'hui vraiment besoin du soutien financier de Gavi pour améliorer sa couverture vaccinale, car en plus, il reste beaucoup d'efforts à faire. En 2014, l'OMS estimait que près de 197 000 enfants étaient insuffisamment ou non vaccinés dans le pays.
Le coût plus élevé de ces nouveaux vaccins, d'ailleurs, risque un jour de poser des problèmes. Que va-t-il se passer quand le gouvernement congolais devra les prendre intégralement en charge? Mais au-delà, d'ailleurs, des difficultés financières, la RDC doit aussi faire face à d'autres obstacles.
Alors, il y a d'abord les réticences des parents, parfois inquiets, on l'a entendu dans la bouche de certains médecins, à l'idée d'une nouvelle piqûre pour leurs enfants. Et puis, la distribution des vaccins peut aussi être compliquée. Imaginez-vous un pays si vaste, avec certains villages accessibles seulement à vélo, à pied ou en bateau, du fait de l'état des routes. Le coût du transport des vaccins dans tout le pays serait de 2 millions de dollars par an. Mais malgré cela, la RDC a su efficacement combattre la poliomyélite. C'est ce qu'affirme Anaruda Gupta, directrice exécutive adjointe de Gavi. avis?
I think DRC had a very formidable challenge till 2011.
Jusqu'à très récemment, en 2011, la RDC a dû faire face à un défi très important. Le pays a connu un grand nombre de cas de polio, 92 cette année-là en 2011. C'est un chiffre très très élevé. Les Congolais ont dû faire preuve de persévérance et fournir de grands efforts pour combattre la polio efficacement. Et de 2012 jusqu'à aujourd'hui, le pays a réussi à maintenir à zéro le nombre de nouveaux cas de polio. Aujourd'hui est un jour historique car la RDC est le 8e pays soutenu par l'Alliance Gavi à lancer le vaccin inactivé contre la polio, ce qui est une étape supplémentaire vers l'éradication totale de cette maladie.
Quels sont les avantages de ce vaccin inactivé contre la polio?
Il y a plusieurs avantages car le vaccin oral contre la polio utilisé jusque-là est associé au poliovirus vivant et peut déclencher la maladie dans de très très rares cas. Mais le vaccin inactivé ne présente pas du tout ce danger-là. Le monde avance vers l'éradication de la polio. Si la variole est la seule maladie à ce jour que nous avons réussi à faire disparaître de la surface de la planète, la polio sera la deuxième sur la liste. Introduire le vaccin inactivé, qui est un vaccin injectable et qui va remplacer à terme le vaccin oral, c'est faire un pas dans cette direction.
La couverture vaccinale pour tous les vaccins n'est que de 72% ici en RDC. Quels sont les efforts qui restent à faire ?
Il faut regarder tout le chemin parcouru par le pays sur le plan de la vaccination. Certains succès méritent d'être célébrés. En 1999, il n'y a pas si longtemps que cela, seulement 25% des enfants étaient vaccinés avec le DTCA contre la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, qui est le vaccin le plus basique que nous utilisons comme un indicateur pour évaluer la couverture vaccinale de chaque pays. Mais en 2013, notre enquête montre que la couverture vaccinale en RDC a atteint 72%. Passer de 25% à 72% en 14 ans, c'est une vraie réussite que l'on ne devrait pas sous-estimer. Mais cela éclaire aussi le fait qu'il reste encore un grand nombre d'enfants à atteindre. Donc le prochain défi qui attend le pays est de commencer à localiser, à identifier les provinces et les localités à l'intérieur même de ces provinces où vivent des populations qui n'ont pas accès à la vaccination de routine. Je pense que la République démocratique du Congo devra en priorité faire en sorte d'atteindre les populations isolées en injectant plus de ressources pour la vaccination.
Quelles sont les principales difficultés auxquelles fait face ce pays en termes de vaccination ?
There are actually a couple of issues in DRC context. The lack of road.
Un certain nombre de problèmes se posent dans le contexte congolais. L'un des plus importants, c'est le manque de routes et d'infrastructures de transport. Si le personnel de santé est là, prêt à vacciner les enfants, mais que le vaccin n'arrive pas. Cela sera un sérieux revers pour les efforts de vaccination. Et dans les circonstances actuelles, il est difficile de transporter les vaccins depuis Kinshasa jusqu'à plusieurs zones à l'intérieur du pays. Il faut les transporter par avion.
So I think one big barrier for them is going to be sort of the expansion of cold chain.
La chaîne du froid peut aussi constituer un grand obstacle. Il faut qu'elle soit assurée tout au long du transport et sur les lieux de vaccination. Une autre difficulté, particulièrement dans ce pays, c'est qu'il faut encore renforcer les compétences du personnel qui assure la vaccination. Il me semble qu'ils sont en nombre suffisant en RDC, mais c'est leur niveau de compétence qui peut poser un problème. Vous savez, si la communauté a certaines peurs liées à la vaccination et aux événements qui peuvent advenir après l'injection, il faut vite dissiper ces peurs.
Au-delà de la vaccination, il reste de nombreux progrès à faire ici en RDC en termes de mortalité infantile et maternelle. Vous, quel regard vous portez sur le système de santé congolais ?
As you know, ma maternal mortality ratio and child mortality rates in
DRC. Comme vous le savez, les taux de mortalité maternelle et de mortalité infantile sont extrêmement élevés. Le taux de mortalité infantile est deux fois plus élevé ici en RDC que le taux moyen sur la planète. Les structures de santé ne sont pas suffisamment équipées. Les professionnels de santé et les infirmiers n'ont pas les compétences nécessaires qui permettraient d'améliorer la santé de la mère et de l'enfant. Mais nous sommes optimistes sur le fait qu'ils vont accélérer les progrès dans ces domaines.
La RDC est confrontée à des taux tristement records de mortalité maternelle et infantile, des chiffres qui montrent les failles du système de santé. Après les informations, nous irons donc dans un hôpital en dehors de la capitale Kinshasa pour mesurer la réalité des difficultés d'accès aux soins dans le pays. On se retrouve donc dans 3 minutes après les infos.
Priorité santé. Claire Hédon.
bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous sommes en RDC, pays de 67 millions d'habitants. Le pays a su efficacement lutter contre la polio. Il est exempt de nouveaux cas depuis 3 ans. Un succès qui cache les réalités d'un accès aux soins difficile, dans la capitale d'ailleurs, comme dans tout le pays. La RDC compte parmi les pays les plus pauvres de la planète, dernier avec le Niger au classement de l'indice de développement humain. Plus de 2/3 de ses habitants vivent en dessous du seuil de pauvreté. Le pays se distingue par une très forte mortalité maternelle et infantile, preuve des défaillances d'un système de santé. Le paludisme reste un problème de santé majeur, comme d'ailleurs à moins grande échelle la tuberculose et d'autres maladies infectieuses ou encore le sida. Charlie Dupuyot, vous êtes allée dans l'hôpital de Mbankana.
Oui, dans une petite ville à 150 km de Kinshasa, à l'ouest de la RDC. Le docteur Martin Kabanga et le directeur des soins infirmiers Pierre Bia de Boutabambé nous en font la visite. On commence par la maternité et nous voilà dans la salle postpartum où les mères se reposent.
Voilà nos accouchées. Elles sont là avec leur bébé dans cette salle.
Il y a 5 femmes ici avec leur bébé.
Voilà, il y a 3 femmes qui ont donné des jumeaux comme là-bas. C'est là aussi.
Bonjour madame.
Bonjour à tous. J'ai des jumelles, ce sont des filles.
Elles ont quel âge?
Un mois, j'ai fait presque un mois. J'ai 29 ans. Le père, il est déjà mort. Je n'ai pas de mari. Je n'ai rien comme travail. J'habite chez mon oncle. J'habite ici en Mbankana. Je souffre comme je suis ici. J'ai des difficultés pour payer l'argent ici à l'hôpital.
Combien ça coûte l'hospitalisation?
250 000. Donc, tout dans l'ensemble, c'est... avec le kit opératoire, donc dans son ensemble.
Elle est accouchée par césarienne,
n'est-ce pas? Oui, par césarienne.
Voilà. C'est une césarienne.
Elle n'a rien payé jusque-là depuis que l'acte a eu lieu. Jusque-là, on est en train d'attendre que la famille dispose un peu de moyens pour honorer la facture de l'hôpital.
Parfois, vous devez demander à certaines femmes de partir alors qu'elles ont accouché il y a peu de temps parce qu'elles ne peuvent pas payer la facture.
Oui, ça arrive. Parfois, on les fait. On les fait sortir.
Ça peut être dangereux aussi pour leur santé.
Bon, ça peut être dangereux, c'est parce qu'ici nous fonctionnons, il faut qu'il y ait les frais de fonctionnement et surtout maintenir l'hôpital propre. Il nous faut aussi des moyens, enfin, de se soutenir.
Et pour les soins, avant l'accouchement, vous êtes venue ici?
Je ne venais pas parce que je n'avais pas d'argent. Même pas consultation, jusqu'à ce que je suis venue mettre moi ici.
Ah, vous n'êtes jamais venu consulter, faire suivre votre grossesse avant d'accoucher?
Parce que je n'avais pas d'argent. Ici, on demande pour la consultation 3 500.
3 500 francs congolais, c'est 3 dollars à peu près, 3 euros.
J'avais ce souci-là de venir ici à l'hôpital pour la consultation, mais je n'avais rien. J'avais toujours mal. Pendant la grossesse, j'avais toujours mal, je sentais toujours mal. J'avais mal au ventre. Je ne me soignais pas parce que je ne venais pas à la consultation. J'avais peur. Ah, parce que je ne prends pas de traitement. Pas moyen de connaître ce qui se trouve dans ma grossesse.
Quelles difficultés ça peut poser, le fait de ne pas avoir de suivi de grossesse?
Ça a des conséquences. C'est parce que suivre les grossesses, ça va permettre à nous, étant soignants, de voir l'évolution d'abord de la grossesse, s'assurer, est-ce que la grossesse évolue normalement ou pas? Est-ce qu'il y a des risques où son petit bébé là-dedans peut courir? L'enfant peut naître avec une infection, ça peut donner chez l'enfant, par exemple, le cas de paludisme qui est vraiment habituel chez nous. Et si la maman ne bénéficie pas des antipaludéens au moment opportun, bon... L'enfant peut naître avec cette pathologie.
Si elle est piquée par un moustique à ce moment-là et qu'elle attrape le paludisme?
Oui, pendant la période intra-utérine, elle peut transmettre son enfant.
Il y a aussi le sida qui peut être transmis sans le savoir?
Oui, si la maman n'est pas informée. Donc il y a des risques. Et parfois, lors de l'accouchement, si on avait bien suivi la femme, l'accouchement ne va pas poser beaucoup de problèmes. Parce que nous demandons des fois l'échographie, et l'échographie doit nous préciser si l'enfant est en bonne position ou pas, si la grossesse évolue normalement ou pas, et s'il y a des risques à évaluer avant son accouchement.
Cette femme-là, par exemple, vous ne saviez pas dans quelle position était le bébé, c'est pour ça qu'il y a eu peut-être des complications?
Oui, d'abord, c'était une grossesse gemellaire. Quand elle était venue pour l'accouchement, le premier bébé était sorti et le deuxième était en position transversale. D'où on n'avait pas de miracle pour faire sortir l'enfant, la solution était que la voie haute.
La césarienne?
Oui, la césarienne.
Mais vous ne saviez pas qu'elle attendait des jumeaux?
Non. Elle-même aussi avait des difficultés à préciser sa date. Les dernières règles alors.
Le taux de mortalité infantile concernant les enfants de moins de 5 ans est très élevé, Charlie Dupiot.
Oui, il est de 119 pour 1000 naissances, un chiffre deux fois plus élevé que celui du Congo-Brazzaville voisin ou du Sénégal, par exemple. Alors, parmi les causes principales de cette forte mortalité infantile, on trouve les infections respiratoires aiguës, le paludisme, les diarrhées et puis les naissances prématurées pour les nourrissons. Selon l'OMS, l'espérance de vie à la naissance est de 52 ans en RDC, donc c'est 6 années de moins que dans le reste de l'Afrique subsaharienne. Et pour ce qui est du taux de mortalité maternelle, il est quant à lui de 730 pour 100 000 naissances. Alors, ce chiffre a certes diminué depuis les années 2000, mais il reste beaucoup plus élevé que dans le reste de la sous-région. Par exemple, c'est 3 fois plus qu'au Gabon, 2 fois plus qu'au Rwanda voisin. Alors, nous repartons dans l'hôpital de Bankana, à 2 heures de route de Kinshasa. Cette fois, direction la pédiatrie, où deux salles exiguës accueillent les enfants hospitalisés. Et c'est l'infirmière en chef du service, Mamine Bdembe, qui nous quittait. Il y a plusieurs bâtiments en fait dans cet hôpital.
On va entrer dans la salle. Ici c'est pédiatrie 1. Il y a des bébés qui sont là en hospitalisation. Ici il y a vraiment un problème de paludisme, mais palud grave, les enfants font vraiment des fortes fièvres. Il y a des gastro-entérites, fébriles. Des différentes pathologies comme ça.
Bonjour madame.
Bonjour.
On est dans une salle avec 8 lits, des mamans et puis leurs enfants. Et vous, alors, vous avez 2 enfants ici? Quel âge ils ont?
Mon corps en a une année, 6 mois.
J'ai 2 enfants ici. L'un a 1 an et demi, l'autre a 11 ans. Le plus jeune a le paludisme et le second a la typhoïde. Ça fait plusieurs jours qu'ils sont là tous les deux. Un est là depuis 8 jours et l'autre, ça fait 4 jours. L'un de mes enfants, celui qui a le paludisme, n'a pas eu ses médicaments ce matin. Et comme je n'ai pas d'argent, je n'ai pas pu les acheter. Normalement, quand les enfants d'une famille sont hospitalisés, la mère est auprès d'eux et le père est dehors en train de rassembler de l'argent pour venir payer. Mais leur papa est décédé. Qui va chercher l'argent pour payer les frais d'hospitalisation? D'habitude, moi, je travaille au champ. Je récolte le manioc ou le maïs. Et ce que je récolte, je le vends. Même si j'en tire très peu, ça me permet déjà de payer le loyer. En général, je gagne 15 000, 25 000 ou 30 000 francs congolais par mois. Ça fait entre 15 et 30 euros. C'est avec cela que je peux aussi nourrir mes enfants.
Est-ce que vous économisez une partie de cet argent justement pour la santé, pour les dépenses santé?
Oui, c'est vrai. Je fais des économies. Avec le peu que je gagne, je peux économiser 1000, 2000, 3000 francs congolais, 1, 2 ou 3 euros. Quand j'ai emmené mon premier enfant à l'hôpital, j'ai pu, avec ces économies, acheter la fiche de consultation. Mais quand mon deuxième enfant est tombé malade, ces économies ne m'ont pas permis de couvrir les deux traitements à la fois. Ça me fait mal de ne pas pouvoir acheter les médicaments de mes enfants.
Et ça coûte combien, ces médicaments?
Pour les deux traitements, il faut réunir 90 euros. Souvent, dans de telles situations, je vais vendre mes habits, mes pagnes ou mes assiettes pour pouvoir emmener les enfants à l'hôpital. Mais actuellement, comme je n'ai pas d'argent et que je ne sais pas comment en trouver, et que mon enfant d'un an et demi est malade, je me dis qu'il peut mourir et ça me fait peur.
Les difficultés principales que nous racontons, c'est qu'il y a souvent des enfants qui viennent. Problème d'argent, c'est ce qu'elle a dit là. Vous donnez la prescription, mais il n'y a pas l'argent pour acheter les médicaments. Il faut se débrouiller. Il n'y a pas de médicaments, comment on va soigner? Et il y a aussi des gens qui viennent de 15 à 20 kilomètres d'ici, 30 kilomètres, voire même 50 kilomètres.
Et comment ils font pour venir jusqu'ici?
Ils prennent la moto. La moto, c'est 15 000, 20 000.
Francs congolais, oui, donc entre 10 et 20 euros congolais.
Elle paye beaucoup. Les 5 euros pour la moto. Ils viennent encore ici, il faut payer la consultation, chercher l'argent pour les médicaments et puis à manger.
C'est manger ici à l'hôpital.
Ça varie 3 à 5 jours en hospitalisation.
Un mois.
Il est déjà guéri, mais il ne sort pas, il ne paye rien comme l'argent.
Cet enfant-là, oui, ça fait un mois qu'il est là, il est guéri, mais il ne peut pas sortir.
Il ne peut pas sortir, il n'y a pas l'argent. Il reste là. Il faut qu'il paye quelque chose. On a donné les médicaments, on a fait ceci. Il faut qu'il paye même quelque chose pour sortir.
Quel risque il court à rester ici?
Mais il va encore attraper d'autres maladies. Par exemple, les maladies nosocomiales, la toux, maladies contagieuses.
Parce que là, tous les enfants sont dans la même pièce.
Oui, oui.
Là, on voit que la salle est un petit peu vétuste aussi. Les murs sont un peu décrépits. Et puis, il y a beaucoup de monde dans une petite salle, en fait. Hein.
En hospitalisation, nous avons 20 enfants. On peut les mettre deux au lit, comme ici.
Deux dans un seul lit?
Oui, deux enfants. Il n'y a pas de locaux. Il n'y a pas suffisamment de locaux.
Et par exemple, là, le petit qui était là, qui souffre de paludisme, il pourrait être mis sous perfusion, non?
Il faut qu'il achète les médicaments.
Mais même le liquide de perfusion, par exemple?
Tout
s'achète.
Ça s'achète. Nous n'avons rien ici que nous donnons gratuitement. Il n'y a pas de société ici pour que les parents travaillent. Il n'y a pas d'emploi. Ils vivent seulement comme ça dans les champs.
C'est la débrouille et ça veut dire que certains parents, peut-être, ne peuvent pas amener leurs enfants à l'hôpital.
Il achète les médicaments à l'officine pharmaceutique, paracétamol, il donne à l'enfant pour calmer ses mal à fièvre. Mais les paludismes hein, ne sont pas soignés. Et même ceux qui viennent ici, ils commencent d'abord à donner les médicaments à la maison. Quand ils viennent, on fait tout pour, mais l'enfant meurt.
C'est des décès qui sont dus à quoi? Pour quelle raison?
Les références en retard, il vient en retard à l'hôpital. On va le faire tout pour diminuer le taux de mortalité infantile chez ici en pédiatrie.
Mais il y a un fort taux de mortalité infantile?
Bon, on peut avoir un ou deux décès par mois. Les soins médicaux ne sont pas assurés ici.
Santé, reportage.
Aujourd'hui, priorité santé et en RDC pour parler de l'avancée dans le domaine de la vaccination, mais aussi des difficultés de l'accès aux soins dans ce pays. Charlie Dupiot, si je comprends bien, les enfants finalement restent hospitalisés tant que les parents ne peuvent pas payer la facture de l'hôpital.
Oui, ils sont en quelque sorte retenus en otage. Selon le personnel de l'hôpital, il faut attendre qu'ils payent au moins une partie des frais liés à leur hospitalisation et aux médicaments. Une situation un peu absurde. Et puis c'était aussi le cas de la mère des deux jumelles qu'on a entendue tout à l'heure dans le même hôpital, mais dans la section maternité. Elle a accouché il y a un mois, mais elle ne peut pas sortir de l'hôpital tant qu'elle n'a pas réglé les 250 euros de son hospitalisation. 250 euros parce qu'elle a accouché par césarienne. On pourrait noter d'ailleurs que le Congo-Brazzaville, donc un pays voisin, a instauré en 2011 la gratuité de la césarienne dans plusieurs de ses hôpitaux. Le but, réduire un taux de mortalité maternelle là aussi particulièrement élevé, même si pour l'instant l'objectif est encore loin d'être atteint.
Vous avez visité cet hôpital de Bankana à l'occasion du lancement du vaccin antipolio inactivé.
Oui, le gouvernement a organisé avec ses partenaires, notamment Gavi, donc l'OMS ou encore l'UNICEF, un événement très officiel pour fêter le lancement du nouveau vaccin. L'endroit choisi pour les festivités a donc été Bankana, où un centre de santé a dans le même temps été inauguré à quelques centaines de mètres de l'hôpital qu'on a visité tout à l'heure. Alors un centre de santé, c'est une petite structure où sont délivrés les soins de base sans médecin qualifié, et le gouvernement a comme projet de bâtir 1000 nouveaux centres de santé dans tout le pays, ainsi que 200 hôpitaux. Était présent à ce lancement le ministre de la Santé et le Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Je l'ai rencontré à l'occasion de sa visite de l'hôpital de la ville.
Notre objectif, c'est non seulement d'éradiquer totalement la polio, mais d'éradiquer toutes les autres maladies parasitaires qui peuvent affecter la santé des enfants.
Alors justement, la couverture vaccinale était de 25% en 1999. Aujourd'hui, elle est de près de 72%. Oui. Il reste encore des efforts à faire. Oui. Qu'est-ce que vous comptez faire pour ça ?
Bon, bah écoutez, madame, vous avez vu que nous travaillons. Aujourd'hui, nous avons un budget de près de 90 millions de dollars que nous affectons annuellement à la santé. C'est pour nous permettre de travailler pour éradiquer totalement et toutes les maladies qui sont de nature à affecter la santé et l'efficacité des enfants. Et donc, c'est ça notre objectif.
Il y a également d'autres problèmes, le problème de la mortalité maternelle qui est très importante, la mortalité infantile, la RDC a le 8e taux de mortalité infantile le plus élevé au monde. Oui. Qu'est-ce que vous comptez faire dans ces domaines-là ?
Ben, l'objectif, madame, c'est d'améliorer la santé infantile, d'améliorer toutes les conditions pour pouvoir rabattre les statistiques qui sont mauvaises afin d'améliorer la cotation de la RDC. Nous le faisons déjà. Si vous avez bien suivi, le PNUD a fait son rapport du développement de l'indice humain. Il a dit que la RDC a gagné 13 points. Et dans les 13 points, il y a les aspects sanitaires. Parce que nous travaillons. Quand nous construisons les centres de santé, madame, quand nous les équipons, quand nous réhabilitons les hôpitaux, nous construisons les hôpitaux, comme l'hôpital dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Nous mettons les médicaments achetés par le gouvernement. Vous avez vu les équipements. Mais tout ceci, c'est pour faire quoi ? C'est pour améliorer la santé de la population congolaise.
Justement, dans l'hôpital où nous nous trouvons, j'ai rencontré tout à l'heure une femme qui ne pouvait pas payer les médicaments anti-paludéens sur les enfants. Il y a un problème de coût aussi des médicaments.
Oui, mais tout ça, nous allons résoudre. C'est pour ça que nous donnons de l'emploi aujourd'hui. Les taux de chômage en République démocratique du Congo, qui étaient de 63%, est descendu à 43%. Donc, il y a près de 20% de la population qui était dans le chômage, qui est à mesure de pouvoir s'acheter les médicaments. Voilà.
Donc pour vous, la solution, c'est l'emploi.
C'est l'emploi. Pour tous les pays, ce n'est pas seulement pour la RDC. Même en France.
Charlie Dupuy, une interview relativement express du Premier ministre congolais.
Oui, il a été difficile de lui poser d'autres questions. Et puis, nous entrons en période électorale en RDC, avec la prochaine élection présidentielle qui est prévue en novembre 2016. Le président actuel, Joseph Kabila, souhaiterait, c'est en tout cas ce qui se murmure à Kinshasa, modifier la constitution afin de pouvoir effectuer un troisième mandat, ce qui lui est pour l'instant interdit. Alors, le Premier ministre a fait référence au dernier rapport du PNUD sur la RDC. Le PNUD, alors c'est le Programme des Nations Unies pour le Développement. Mais en fait, ce que le rapport souligne surtout, et ce que le Premier ministre oublie de mentionner, c'est le manque de services de santé de qualité accessibles à la population congolaise. Alors, pour vous donner un chiffre, il y a en moyenne un médecin pour 11 570 habitants, avec bien sûr de grandes disparités selon qu'on soit à Kinshasa, dans la capitale, ou alors dans des provinces plus reculées. Par exemple, dans la province de l'Équateur, un médecin couvre 2700 km² de territoire. Donc, le ratio personnel soignant-population est ici l'un des plus faibles d'Afrique subsaharienne. Et l'autre fait important que relève ce rapport du PNUD, c'est le déficit en termes de personnel soignant de qualité. Et ce, malgré le nombre élevé de diplômés qui ont bénéficié d'une formation médicale. Cela veut dire qu'en milieu rural, certains Congolais, même s'ils en ont les moyens, ont peu de chances d'être soignés en fait par un médecin qualifié. L'OMS s'inquiète aussi de l'absence de services de base et la destruction d'infrastructures dans la partie est de la RDC pendant plusieurs années de conflit, avec notamment une inquiétude au sujet des déplacés internes qui sont actuellement plus de 2 millions, surtout au nord et au sud Kivu. En bref, vous l'aurez compris, la situation sanitaire de la RDC est catastrophique, ce qui explique la lenteur des progrès dans le domaine du développement humain qu'on observe dans ce pays-là.
Une autre précision, la RDC consacre seulement 5,6% de son PIB à la santé, alors qu'à Abuja au Nigeria en 2001, les pays de l'Union africaine s'étaient engagés à attribuer au moins 15% de leur budget national au secteur de la santé. Charlie, vous avez pu être accueilli chez une mère de famille dans une petite habitation à Mankana, en bordure de route.
Oui, nous voici chez Renate, mère de 3 enfants.
J'habite dans cette maison-là. On peut entrer.
C'est une maison construite avec de la terre et un toit en tôle.
Oui, c'est comme ça qu'on l'a construite.
C'est une pièce d'à peu près 5 mètres carrés avec une table au milieu, un banc.
Et on va là, la salle. Les enfants dorment ici au salon. Mon mari et moi dormons là-bas, dans la chambre. La chambre est là-bas. Elle fait la même taille que le salon. Quand il pleut, nous cuisinons ici avec le poêle. Pour se laver, il y a deux possibilités. La première, c'est d'aller à la rivière et d'y puiser de l'eau. Ou alors, s'il pleut, nous recueillons l'eau de pluie pour l'utiliser. Là, nous avons de l'eau dans un seul de nos quatre bidons. Nous payons 10 dollars de loyer par mois. Je suis ici avec mon mari et mes trois enfants.
Comment vous faites pour les soigner quand ils sont malades ?
Je cherche de l'argent et quand j'en ai rassemblé, je les amène à l'hôpital. Je fabrique des chikwangé, des pains de manioc que je vends ensuite. Cela nous aide à survivre et cela permet de nourrir nos enfants. Mon mari, lui, est maçon.
Est-ce que sur cet argent que vous avez chaque mois, vous économisez au cas où vos enfants sont malades ?
Là, je n'ai aucune économie. Le problème, en fait, c'est que nous n'arrivons pas à économiser. Le peu que nous avons, nous le dépensons pour manger, pour la survie quotidienne. Ça me fait mal de ne pas pouvoir économiser. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Si Dieu me fait grâce, je pourrais un jour gagner suffisamment d'argent pour en économiser une partie. La semaine dernière, ma fille a eu le paludisme et la typhoïde. Elle a 1 an et 8 mois. Elle a été perfusée et le médecin lui a écrit des prescriptions médicales avec lesquelles on lui a acheté des médicaments.
Aujourd'hui, elle va mieux ?
Oui.
J'ai
dépensé 20 000 francs pour son traitement, 20 euros. Je n'économise pas, donc ces 20 000 francs étaient destinés à assurer la survie de mes enfants.
Et là, aujourd'hui, du coup, vous n'avez pas d'économie si jamais l'un de vos autres enfants tombe malade ?
Non, je n'ai rien aujourd'hui. Là, vous voyez, ma fille est en train de manger un morceau de pain. Je n'ai rien d'autre à lui donner. Si elle tombe à nouveau malade, qu'est-ce que je peux faire ? Si vous avez quelque chose, vous n'avez qu'à me le donner.
Sans un système d'assurance santé, il est difficile de ne pas être inquiet au sujet de l'avenir. L'autre problème du système de santé congolais, c'est le manque de matériel, Charlie Dupiot.
Oui, il existe déjà peu d'hôpitaux, seulement 260 formations hospitalières publiques pour tout le pays. Et elles peuvent manquer de matériel, même dans la province de Kinshasa.
Je suis docteur Christian Itoka Bimbakila, médecin directeur du centre hospitalier de Tadi Maluku, dans la province de Kinshasa. Dans l'ensemble, la population a du mal à accéder aux soins parce que le pouvoir d'achat de notre population est assez faible. Quand il se trouve dépourvu de moyens, il s'évertue à l'automédication, par exemple, ou à d'autres choses, au lieu de venir à l'hôpital pour bénéficier de soins appropriés. Du point de vue ressources matérielles, ça constitue aussi des difficultés pour offrir des soins de qualité à notre population. Je donne un exemple type. Nous n'avons pas le service des radiologies qui est opérationnel. Or, nous avons beaucoup de cas d'accidents de trafic routier qui amènent à des fractures. Donc, il faut faire des radios pour une meilleure prise en charge. Mais à l'heure actuelle, nous ne sommes pas encore en mesure d'offrir ces services-là. Comme je dis, on se bat avec les moyens de bord, ceux dont on dispose. Donc, à ce qui concerne la santé de la mère et de l'enfant, nous avons aussi des difficultés. Parce que normalement, nous devons avoir la salle de travail, la salle d'accouchement, la salle du postpartum.
Pour les semaines après l'accouchement.
Les semaines après l'accouchement, voilà. Salle pour bébé, même aussi un bloc pour césarienne.
Des salles séparées.
Des salles séparées, bien sûr. Mais pour le moment, c'est un seul local qui fait l'ensemble du travail. Voilà, c'est-à-dire une femme qui vient avant qu'il accouche, elle est dans la même salle. Quand elle accouche, elle est dans la même salle jusqu'à la sortie, et elle et puis son bébé. Vous comprenez un peu ? Nous avons un appareil d'échographie, mais qui ne suffit pas. C'est un appareil d'ailleurs qui est aussi vieux.
Il vous en faudrait combien de ces matériels-là ?
Minimum 2 pour l'échographie. Par contre, chez nous, il n'y a qu'une seule ambulance qui a d'ailleurs aussi vieilli. Nous sommes dans un hôpital général de référence. Il faut un minimum d'équipement. Mais nous n'avons pas encore atteint ces niveaux-là. À ce qui concerne le laboratoire, la banque du sang, nous avons un seul local. C'est juste une salle, peut-être, je peux dire, de 4 mètres carrés. Pour des soins de qualité, il faut aussi des moyens financiers.
C'est-à-dire que l'hôpital dispose d'un plus grand budget ?
Minimum, moins le double. de ce que nous avons.
Du budget actuel.
Au-delà de 200 000 dollars l'an en termes de fonctionnement et d'investissement. C'est beaucoup, c'est parce qu'il y a beaucoup à faire aussi. Et nous l'exigeons, nous le demandons chez nous. Ce que nous attendons de notre gouvernement, c'est un appui pour que réellement nous puissions bénéficier des infrastructures, des équipements, bien sûr aussi en termes de médicaments. Et du point de vue de notre sphère géographique que nous desservons. Parce que non seulement nous desservons la ville-province de Kinshasa, mais à travers le fleuve, nous prenons aussi en charge des malades qui viennent des autres provinces de l'intérieur du pays. C'est comme ça que je vous ai dit que c'est un besoin crucial, un besoin urgent pour nous qui est vraiment attendu par la population.
Et la République démocratique du Congo continue à faire face à plusieurs épidémies, notamment de rougeole, de fièvre jaune ou de choléra. La province du Katanga, au sud du pays, a connu un épisode important de choléra au début de l'année 2015, avec plus de 2000 cas déclarés. Et puis récemment, la RDC a de nouveau été confrontée à une épidémie d'Ebola.
Oui, une flambée que le pays a su juguler assez rapidement, fort de sa longue expérience avec le virus Ebola. Cette flambée s'est déclarée en août 2014 dans la province de Boende et a fait officiellement 49 morts sur le territoire. L'OMS a annoncé pourtant la fin de l'épidémie en novembre 2014, moins de trois mois plus tard. Selon le représentant de l'OMS en RDC, le docteur Joseph Ouagodo Kabore, c'est un résultat impressionnant, je cite, si l'on considère que globalement, le système de santé nationale présente de sérieuses faiblesses. Alors, comme dans la lutte contre la polio, fixer des priorités gouvernementales permet, on le voit, d'obtenir des résultats extraordinaires.
On peut donc parler du succès congolais en termes de polio, mais beaucoup d'autres défis attendent la RDC dans le domaine de la santé. Merci Charlie Dupiot pour ce reportage en République démocratique du Congo, une émission réalisée par Didier Bleu. Au revoir à tous et à demain.